Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme.
Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser.
But all that aside, we still have a problem, and it's a real problem. And the problem is this. Women are not making it to the top of any profession anywhere in the world.
Vous êtes pas féministe?
Non, je ne suis pas. J'ai jamais violé parce que, j'étais élevée par mon père, qui était un homme charmant, et après j'étais libre tout de suite. J'ai eu à dépendre d'un homme, ce qui change beaucoup la vie. Et toutes les relations que j'ai eues avec des hommes sont finies par... on finit par l'affection, quoi. Je me suis pratiquement rabrouillée avec un homme.
But anyway, since feminism was on Africa, I decided I would now call myself a happy Africa feminist.
Vous écoutez Radio Campus sur 88.3 FM et voici la chronique Le Sac à Main de l'Histoire. Le Sac à Main de l'Histoire. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Orléans sur 88.3 FM et je vous souhaite la bienvenue dans le sac à main de l'histoire. Si je vous fais écouter ça... À quoi pensez-vous ? Joséphine Baker, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons donc traverser l'Atlantique pour parler d'une célèbre danseuse américaine. Freda Josephine McDonald naît dans le Missouri le 3 juin 1906 dans une famille très pauvre. Artiste, ses parents ont monté ensemble un numéro de chant et de danse, mais son père abandonne la famille en 1907. Sa mère se remarie avec un ouvrier. La jeune fille passe une partie de son enfance à alterner l'école et les travaux domestiques pour les gens aisés chez qui sa mère l'envoie travailler. La jeune fille évolue dans un foyer sans amour. Petite, elle gagne son premier concours de danse organisé dans son quartier. Joséphine quitte l'école en février 1920 et se marie. Elle n'a que 13 ans. À la fin de ce mariage, un an plus tard, Joséphine danse toujours et rejoint un trio d'artistes de rue, puis une troupe itinérante, les Dixie Steppers, pour laquelle elle est habilleuse. À la fin de la tournée, elle se remarie en 1921 à Philadelphie. Elle continue à danser. À peine âgée de 16 ans, elle quitte son second mari pour aller danser à Broadway. Après plusieurs refus, elle se voit octroyer un petit rôle dans une comédie musicale à succès où la distribution est totalement noire. En 1925, elle traverse l'Atlantique grâce à Caroline Dudley Reagan. Elle fait immédiatement sensation à Paris dans la fameuse troupe nommée la Revue Nègre. Sa façon de danser se révèle inhabituelle dans une époque où la valse est à la mode en France. Les costumes qu'elle porte répondent à l'idée que la société française se fait sur les populations et cultures africaines. Des pays sauvages, primitifs, mais dominés. Pourtant, Joséphine n'arrive pas des colonies africaines, mais de New York, et ses pas de danse sont directement inspirés des nouvelles danses à la mode outre-Atlantique, comme le Charleston. En 1926, après une tournée glorieuse à travers l'Europe, la troupe de la Revue Nègre rentre à la capitale. C'est à ce moment-là que Joséphine rejoint les Folies Bergères, qui fera d'elle une célébrité. Le succès est immense, si bien qu'elle influence la mode parisienne. Les femmes veulent un halé et se plaquent les cheveux sur le crâne avec du Baker Fix. Le succès est au rendez-vous, et les critiques racistes aussi. À partir de 1928, ces spectacles sont annulés dans diverses villes européennes, telles que Vienne, Munich, qui ne veulent pas applaudir une danseuse noire. Dans d'autres pays, on refuse de payer aussi cher pour aller la voir. Joséphine continue de danser et montre aussi qu'elle sait chanter avec une préférence pour le jazz sur les planches du Casino de Paris en 1934. Plus tard, après une tournée peu concluante aux États-Unis, elle retourne en France en 1937 et acquiert la nationalité française grâce à un mariage. En 1939, lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne, les services de renseignement recrutent diverses personnalités. Malgré les soupçons de ces derniers, Joséphine prouve son attachement à la France en récoltant des informations d'officiers lors de soirées parisiennes. Artiste invitée de toutes les grandes scènes européennes, mondaine qui fréquente soirées et salons, Joséphine peut facilement se déplacer à travers l'Europe. Son profil semble idéal. C'est ainsi qu'elle fera passer des messages secrets dans des partitions. Après une hospitalisation en Afrique du Nord, elle rentre dans le mouvement du général de Gaulle pour la France libre. Au sortir de la guerre, elle continue de chanter pour les déportés, mais trop souffrants ou trop faibles pour que l'on puisse les transporter, et joue pour les troupes encore mobilisées en Afrique du Nord et en Italie. Après la guerre, elle se rend à plusieurs reprises aux États-Unis où elle combat en faveur des mouvements des droits civiques. Elle, qui a souffert du racisme et de la ségrégation, ne manque aucune occasion pour défendre la communauté afro-américaine. Des procès, des déclarations à la presse, des rencontres avec des chefs d'entreprise, mais aussi des clauses dans chacun de ses contrats pour interdire toute discrimination à l'entrée des salles de spectacle. Elle épouse Joe Bouillon en 1947 et achète un château en Dordogne qu'elle loue depuis 10 ans déjà. Elle y accueille 12 enfants de toutes origines qu'elle a adoptés et qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel. Les années 60 marquent un tournant en demi-teinte pour Joséphine. Aux États-Unis, elle est toujours victime de ségrégation. En France, elle divorce avec Joe Bouillon. Elle doit donc multiplier les concerts en Europe pour pouvoir continuer à payer le château et faire vivre sa famille. Ruinée, Joséphine en sera expulsée en 69, mais pourra compter sur le soutien de nombreuses personnalités, dont Brigitte Bardot, Grèce de Monaco ou Jean-Claude Brialy, pour ne citer qu'eux, qui l'aideront à se relever. Ce qui lui permettra de continuer à faire des spectacles à travers l'Europe. Elle décède le 12 avril 1975, peu de temps après le gala qu'elle a organisé pour célébrer ses 50 ans de carrière. Ce que les gens retiennent souvent de Joséphine Baker, c'est cette chanson dont je vous ai passé l'extrait au début de la chronique, les accessoires qu'elle pouvait porter, mais aussi ce déhanché qui n'appartenait qu'à elle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès qu'elle a commencé à côtoyer la gloire, elle s'est servie de son image de star afro-américaine pour défendre les droits civiques, pour lutter contre le fascisme, marcher contre le racisme aux côtés de Martin Luther King. Joséphine s'est battue pour les Noirs, les opprimés, les bafoués, pour les alliés durant la guerre, pour les animaux et pour ses enfants. La source utilisée pour écrire cette chronique est une biographie écrite par Inwood en 2001 appelée « La folie Joséphine Baker ». Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Ton cœur est roi. jour.